tous qui avez accepté de mieux comprendre l'actualité en République démocratique du Congo dans cette tribune de presse. Nous sommes vendredi 22 janvier 2016 et les invités sont Giscard Koussema, directeur général de Canal Culture Télévision. Giscard, bonsoir.
Bonsoir Berry, bonsoir à tous.
Jean-Pierre Kayembe, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir, RTGA. Jean-Pierre, bonsoir.
Bonsoir Robert et Franklin, bonsoir aux auditeurs de Radio Capi.
Charles Kipingani, éditeur du journal Gouvernance Plus, un hebdomadaire qui paraît à Matadi dans le Congo central. Charles, bonsoir.
Bonsoir aux auditeurs de Radio Capi et à tous les abonnés du journal Gouvernance Plus.
Et pendant trois quarts d'heure, deux thèmes sont au cœur du débat de ce soir. D'abord, la visite de l'ancien Premier ministre togolais et membre du groupe des sages de l'Union africaine en la personne d'Edem Kodjo. Le communiqué de l'Union africaine lui a donné la mission de voyager de toute urgence à Kinshasa pour mener des consultations en vue du lancement du dialogue. Et puis nous évoquerons la proposition de l'ancien gouverneur du Katanga. Moïse Katumbi propose l'éventualité d'organiser des primaires au sein de l'opposition en prévision de la prochaine élection présidentielle qui doit se tenir avant la fin de cette année. Objectif, désigner un candidat unique de l'opposition pour la présidentielle. Tribune de presse, les débats sont ouverts. Guy Maté, bonsoir, et dites-nous comment la presse écrite a analysé l'actualité de la semaine.
Bonsoir. Désignation d'Edem Kodjo comme consultant en prévision, dialogue en RDC, la proposition de Moïse Katumbi sur les primaires dans l'opposition constituent des sujets sur lesquels reviennent les journaux de Kinshasa. Ajoutez à cela la victoire des Léopards face au Palancas Nega par 4-2. C'est ainsi que le quotidien Le Potentiel titre « Dialogue d'Edem Kodjo sur un terrain miné ». Ce journal rappelle qu'arrivé lundi soir à Kinshasa, les démineurs de l'Union africaine, Edem Kodjo, mesurent déjà la complexité de sa mission. Avec une feuille de route qui ne semble pas tenir compte des exigences des anti-dialoguistes, la mission du Togolais est à haut risque, estime ce quotidien qui pense que des missiles pour faire exploser en plein vol la facilitation africaine sont activés. Edem Kodjo le sait-il, s'interroge ce journal. Majorité opposition ne jure que par l'échec d'une démarche qui pourrait aboutir à une pacification réelle du processus électoral. Autant dire qu'Edem Kodjo avance sur un terrain miné, conclut Le Potentiel. Tshisekedi Kodjo, les face-à-face de tous les enjeux, s'exclame le palmarès qui annonce que l'émissaire de l'Union africaine a bouclé les consultations au niveau de Kinshasa. Il n'a certes pas rencontré tout le monde, dont une frange importante de l'opposition, lui ayant claqué la porte au nez. Il s'agit de la dynamique de l'opposition, du G7 et du Front citoyen 2016, précise le journal. Mais Edem Kodjo estime avoir fait l'essentiel, souligne ce journal, qui poursuit que sa longue expérience des affaires africaines lui ayant appris que même ceux qui ont refusé de les rencontrer, ont fini d'une certaine manière par communiquer ou pré-dialoguer avec lui. Bruxelles, le dialogue suspendu à la rencontre de Tshisekedi d'Edem Kodjo, pense le quotidien La Prospérité qui annonce qu'après Kinshasa, Edem Kodjo doit aller échanger avec Étienne Tshisekedi, président national de l'UDPS à Bruxelles, où il serait fait la santé depuis plus d'une année. Au regard des similitudes dans la lutte politique de ces deux personnalités, une entente est possible. Sous le chapitre des élections présidentielles RDC, Moïse Katumbi évoque des primaires à l'opposition, rapporte RadioKwapi.net qui précise qu'invité du journal Afrique sur France 24, mercredi 13 janvier, l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a évoqué l'éventualité de l'organisation des primaires au sein de l'opposition congolaise en prévision de la prochaine élection présidentielle qui doit être organisée avant la fin de l'année. L'ancien cadre du PPRD qui a récemment rejoint les rangs de l'opposition affirme que des pourparlers sont en cours pour désigner un candidat unique de l'opposition pour la présidentielle. Le quotidien La Prospérité traite du Chan Rwanda 2016 et annonce les Léopards en quart de finale sans calcul. Après qu'ils ont battu hier les Palancas Nega de l'Angola à Butare par un score de 4-2. Le Potentiel revient sur cette actualité qui fait état de la disparition de maître Gérard Kamanda wa Kamanda. Et ce journal est de rappeler que c'est dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 janvier 2016 que maître Gérard Kamanda wa Kamanda s'est éteint à Kinshasa à la suite d'un vaillant combat de plusieurs mois contre une subite maladie. Merci, c'est la fin de cette revue de presse.
Merci Guy Maté. Dans l'actualité, vous l'avez sûrement entendu, Guy Maté l'a évoqué, les Léopards de la RDC ont mangé les Panthères Noires d'Angola sur le score des 4-2. Lors de la conférence de presse d'après match, le sélectionneur Florent Ibengué a affirmé, je cite, « Les matchs ne se ressemblent pas, il faut
savoir observer l'adversaire. J'ai la chance d'avoir dans mon équipe des joueurs avec lesquels j'ai la possibilité de changer d'organisation. Aujourd'hui, ça a fonctionné comme cela avait fonctionné contre l'Éthiopie. Tant mieux pour nous. Fin de citation. À noter que les Léopards se sont qualifiés déjà en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations après cette large victoire. Alors, Giscard Kousséma, comment vous avez analysé la victoire des Léopards?
C'est une bonne entrée dans la compétition, mais on ne devrait pas s'arrêter là pour dire que le bilan est déjà positif. Et ce qui reste à faire est le plus dur, d'autant plus qu'il s'agit maintenant des qualifications directes. Et c'est là où on attend l'exploit des Léopards congolais, dans la mesure où ils pourraient, dans leur chemin croisé, les Amavubi
du Rwanda,
avec toutes les faveurs accordées à un pays organisateur, pour me reprendre. C'est une bonne chose, c'est une bonne dynamique, mais c'est très tôt de faire un bilan positif pour cette compétition.
Alors, Jean-Pierre, depuis les préparatifs jusqu'à maintenant, est-ce que vous trouvez que nous avons vraiment le droit de prétendre à la victoire?
Oui, je crois que l'objectif Ibenge pour 2016, c'est de ramener la coupe au pays. J'ai vu les deux premières prestations des locaux. J'ai vu les garçons faire un travail exceptionnel. J'ai vu hier comment les Quinois ont sursauté lors du premier but, deuxième et troisième et jusqu'à là. Donc c'est une façon pour les Léopards de redonner du sourire aux Congolais. Vous le savez, le foot, le sport de manière générale, il n'y a pas opposant, il n'y a pas majorité, il n'y a pas société civile. Tous, nous restons derrière les Léopards. On sait que les garçons ont fait un travail exceptionnel pendant ces quelques temps. C'est vrai, la préparation a été dure.
Notamment avec la défaite contre le pays organisateur,
Match amical. Oui, un match amical et ça a commencé un peu à nous inquiéter. On sait que les Léopards, depuis très longtemps, ils ont difficilement enchaîné deux victoires de suite. Et pour ce qui s'est déjà fait pour les deux premiers matchs, ça réjouit. Et on espère qu'en quart de finale, les poulains de Jean-Florent Ibenge vont pouvoir encore faire la différence et redonner du sourire aux Congolais.
D'accord. Alors, Charles Kipingani, quelle chance vous donnez aux Léopards par rapport à la suite de la compétition?
Je leur donne beaucoup de chance, mais seulement il faut dire ici que c'est la fin qui justifie les moyens. Et en RDC, nous avons toujours commencé avec de bonnes choses,
mais avec fracas.
Oui, avec fracas, mais assez souvent, la fin nous donne assez souvent des résultats parfois non attendus. Donc le ministre s'est félicité de cette victoire, mais ce qui porte plus, c'est de continuer à soutenir cette équipe, sur tout le plan, pour qu'elle continue à maintenir le cap et à faire mieux.
Donc, même dans la défaite.
Bon, bien sûr que oui, et dans le foot, c'est ça le jeu, soit on échoue, soit on réussit, mais pour nous, nous comptons à ce que cette équipe puisse aller de mieux en mieux et de l'avant, et de réussite en réussite, mais il suffit à ce que les politiques puissent mettre des moyens conséquents et continuer à soutenir cette équipe de manière assez efficace pour que cette victoire soit pérennisée, ou sinon qu'on arrive beaucoup plus à une victoire.
Alors, vous êtes à Kinshasa, mais votre journal paraît à Matadi. Quelles sont les dernières informations de Matadi que vous pouvez partager avec nous?
Merci beaucoup. Je suis à Kinshasa depuis une semaine. Je suis de la province. L'actualité en province reste dominée par la mise au chômage des agents de l'ex-repère et aujourd'hui des RK et de l'organisation d'un concours des agents de cette régie, et dont la date est loin d'être fixée juste à ce jour ici, mais aussi la coupure du pont depuis pratiquement deux semaines, le pont reliant la ville de Boma à celle de Mwanda, et que cette route qui est une nouvelle qui n'enchante pas la population de Mwanda, qui pense que cette route ne mérite pas ses sorts, ou dans une capitale du pétrole de la RDC, on doit avoir une route et un pont qui doit être remplacé en bois. Donc c'est vraiment, ça fait très mal, mais aussi la visite de la première dame dans sa province paternelle, Madame Olivier Kabila.
Merci. Alors, une autre actualité de la semaine, c'est justement le décès de Maître Gérard Kamando Akamanda. Ce diplomate congolais s'est éteint la nuit de mercredi à jeudi à la formation médicale médecin de nuit ici à Kinshasa, après y être admis depuis maintenant plus de trois semaines. Ancien ministre des Affaires étrangères des années 80-90, Maître Gérard Kamando Akamanda a été très actif dans la diplomatie de la RDC. Giscard Kousséma, que retenez-vous de cet illustre disparu?
C'est sa longue carrière de diplomate, mais voilà une personnalité, un baobab, qui s'éteint sans avoir donné ce qu'il pouvait laisser à cette République. Et cela remet à la surface ce qu'on a toujours dit, les gens, quel l'essor réservé à tous ceux qui ont consacré un peu de leur vie à ces pays, les voilà qui part avec son expertise, alors qu'on l'a présenté ici comme l'une des rares personnalités nationales à avoir occupé des très hautes fonctions. Rappelez-vous, Maître Gérard Kamanda a été le secrétaire général adjoint de l'Organisation de l'Unité africaine, oui. OUA, et le voilà qui est parti avec son expertise. Donc en dehors des fonctions officielles qu'il a occupées il y a une trentaine d'années, il était là et sans que le pays
ne recourt à son expertise.
Donc il est parti avec son expertise et donc une perte énorme pour nous.
Jean-Pierre, est-ce que ce n'est pas finalement une bibliothèque qui se brûle, comme on dit en Afrique?
Oui, il faut dire que l'annonce de son décès a refroidi tous les enthousiasmes, quand on sait que Maître Gérard Kamanda n'était pas n'importe qui. Moi, je sais qu'en dehors de Jean-Marie Bomboko, qui est l'architecte de notre diplomatie, vient ensuite Maître Gérard Kamanda, qui a beaucoup travaillé pour la diplomatie congolaise. Il est pour moi un des ministres des Affaires étrangères, des bons ministres des Affaires étrangères de tout le temps. Aujourd'hui, il s'en va après une brillante carrière, aussi bien au niveau national qu'à l'international. Il a fait son temps. Que voulez-vous? Il a fait son temps. Le Seigneur a voulu le rappeler auprès de lui. Je suis sûr que tout ce qu'il a fait, Maître Gérard, reste pour nous un modèle pour les intellectuels, un modèle à suivre à tout prix. Il est parti et tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que son âme repose en paix.
Charles, il a commencé, Maître Gérard a commencé sa carrière politique dès qu'il a fini ses études universitaires jusqu'à sa mort dans la nuit du 20 au 21. Vous retiendrez quoi de lui?
Humainement, d'abord, je dois d'emblée me poser la question de savoir ce que les autorités vont donner comme témoignage à son endroit, parce que un homme de beaucoup de potentialités de ce niveau-là, je crois que on aurait dû mettre à profit ses potentialités pour faire avancer aussi les pays. Mais dommage que on recourt aux hommes qui sont actifs en politique, qui adhèrent à la vision actuelle. Je crois que c'est une bibliothèque, mais aujourd'hui nous pouvons donner des témoignages, comme on va les faire bien sûr avec par les autorités congolaises. Mais ce qui est important, plus important, c'est de capitaliser ce qu'il était pendant qu'il était en vie. Maintenant qu'il est décédé, c'est une perte pour la République qui n'a pas pu capitaliser et tout ce qu'il avait comme capacité qui pouvait bien servir le pays.
Merci beaucoup et tout de suite nous allons commencer notre premier thème de la soirée qui concerne l'arrivée d'Edem Kodjo ici à Kinshasa. L'Union africaine a chargé le week-end dernier l'ancien premier ministre togolais et membre du groupe des sages de cette institution de mener des consultations nécessaires pour le lancement du dialogue en RDC. Selon le communiqué de l'Union africaine le notifiant, la présidente de la commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, lui a demandé de voyager de toute urgence à Kinshasa pour mener ses consultations en vue du lancement du dialogue. Lievin Bwinga a lu pour nous ce communiqué.
Un communiqué publié samedi 16 janvier par l'Union africaine indique que Nkosazana Dlamini-Zuma continue de suivre les discussions en cours en RDC sur la convocation du dialogue politique en RDC. La présidente de la commission soutient fortement cette initiative comme le seul moyen de relever les nombreux défis auxquels sont confrontés le pays et de consolider l'unité et la cohésion nationale. Elle espère que ce dialogue tant souhaité sera inclusif et tenu dans un climat de paix, de compréhension et d'harmonie nationale, lit-on dans le communiqué. Nkosazana Zuma demande aux partis politiques de la majorité et de l'opposition ainsi qu'à la société civile de participer au dialogue pour trouver un consensus afin de consolider le processus démocratique en cours. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, a annoncé la convocation d'un dialogue politique inclusif avec pour objectif de trouver des solutions consensuelles aux questions majeures qui minent le processus électoral, ouvrant la voie à des élections crédibles et apaisées.
À noter qu'il y a eu plusieurs réactions dans la classe politique, qui pour soutenir cette désignation et qui d'autres pour rejeter carrément. Et vous venez de nous prendre en cours, sachez que la tribune de presse reçoit dans ce studio Giscard Koussema, directeur général de Canal Futur Télévision, Jean-Pierre Kayembe, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA, et Charles Kipingani, éditeur du journal Gouvernance Plus, un hebdomadaire qui paraît à Matadi, dans le Congo central. Alors une question à vous tous les trois messieurs, quelle analyse vous avez fait de la désignation d'Edem Kodjo, Giscard?
Écoutez, je voudrais d'abord dire que l'Union africaine s'est invitée dans un débat pour lequel aucune des parties congolaises n'avait sollicité sa facilitation aux médiations. Je sais que Kinshasa avait écrit au secrétaire des Nations Unies pour lui proposer trois noms de facilitation. Et jusqu'aujourd'hui, les Nations Unies sont restées à faune. Et dans la diplomatie, c'est tout un message. Donc, on ne vous répond pas, ça signifie clairement qu'on n'est pas avec vous. Donc, c'était le tout premier germe d'échec, donc c'est cette intrusion-là de l'Union africaine. Deuxièmement, c'est le profil aussi de la personne que l'on envoie. Eden Kodjo, bon, quel profil il a su être un chef d'État, je crois qu'on aurait pu avoir un peu plus de considération.
Mais une haute personnalité comme un ancien Premier ministre.
Oui, c'est un ancien Premier ministre, mais qui vient avec un état des lieux déjà biaisé. La lecture, les communiqués.
Mais jusqu'à fait quand même partie du groupe des sages de l'Union africaine.
Je ne remets pas en cause. C'est une personnalité africaine bien connue qui a accédé à de hautes fonctions. Mais je parle de la mission qu'il a amenée ici. L'état des lieux qui avait été établi par l'Union africaine pour justifier cette mission avait fait une très mauvaise lecture sur ce qui préoccupe les Congolais en ces moments. Ce qui préoccupe les Congolais, je pense, ce n'est pas la tenue du dialogue, mais c'est plutôt l'organisation des élections dans le délai constitutionnel.
D'accord.
C'était cela. Or, le terme constitution n'a pas été repris dans les communiqués de l'Union africaine, donc ce qui a fait que avant même qu'il ne prenne l'avion, à Kinshasa, il avait déjà la première réponse de l'opposition pour lui dire que si c'est ça, il vient pour...
Bon, j'espère qu'il était déjà dans l'avion. J'espère qu'il était déjà dans l'avion lorsqu'il recevait la réponse de l'opposition.
Je n'ai pas encore fini.
Permets d'abord...
Vous connaissez une crise qui a déjà été résolue en Afrique par l'Union africaine. Moi, je n'en connais pas.
D'accord.
Donc, c'est à l'image même de l'institution. Union africaine elle-même a une image très entamée. Ça passe aujourd'hui pour un conglomérat, pour un syndicat, des chefs d'État qui luttent pour leur positionnement. C'est dans ce sens qu'une certaine opinion, et notamment l'opposition, pense
Jean-Pierre a vraiment
que
besoin de
Eden
vous
Kodjo alors, vient rapidement faire les lits du pouvoir, et voilà pourquoi d'autres n'ont pas voulu.
D'abord, je ne comprends pas pourquoi il doit dire
oui,
que l'Union africaine s'est auto-invitée dans un débat qui ne concernait pas l'organisation panafricaine.
On n'attendait pas la facilitation de l'Union africaine. On a écrit
vous savez, c'est ça justement le mal de l'Africain. L'Africain lui préfère faire confiance à quelqu'un d'autre qui vient de notre continent. Et quand on va parler, on dira, mais écoutez, on est indépendant, écoutez, on est ceci, cela. Ici, moi, je trouve normal la position de l'organisation panafricaine africaine qui est resté pendant longtemps sans donner sa position par rapport à ces dialogues. Il est normal qu'il y ait des consultations au niveau des Nations Unies et que l'Union africaine s'approprie également la question. Quand on a récusé l'émissaire Kodjo, et finalement moi je me demande, on met Saïd Djinit, l'opposition les récuse, on met celui-là, et finalement je me dis, même si on mettait le Messie lui-même,
il sera récusé.
Mais est-ce que je peux terminer? Est-ce que
Giscard, laisse-le d'abord finir.
Pour la tenue du dialogue est inopportun.
Aujourd'hui,
d'accord.
Donc, je constate, il ne faut pas le résumer en termes d'individus.
D'accord.
Il faut voir l'opportunité même du dialogue et donc et tout ce qui s'ensuit.
L'opposition.
Tant mieux le temps qu'il finisse et puis on va donner la parole à
Berry Franklin. L'opposition est dans un schéma de pur blocage. L'opposition est sur les points.
Vous estimez
bloqué
que c'est vraiment une bonne façon pour l'Union africaine d'essayer de résoudre le problème en RDC?
Non, je crois que pour une affaire qui se pose sur les continents, il est normal que l'Union africaine s'en approprie. Et puis je reviens au dialogue, je reviens à la question même de ce dialogue politique.
La mission
tout
même
est,
de
tout est inopportun à l'opposition. Quand le gouvernement parlait du recensement, alors qu'il avait été demandé, sollicité en son temps par l'opposition, le bon, non, c'est pas... Donc les choses sont opportunes. opportune quand c'est demandé par l'opposition. Quand c'est une initiative provenant du pouvoir, elle est tout à fait inopportune. Ça, c'est pas une bonne façon de voir les choses. Moi, je crois que faire l'opposition, ce n'est pas tout remettre en cause. Même quand la vie de la nation en dépend. Aujourd'hui, il est démontré que le processus électoral est bloqué. Et face à cette crispation ambiante, tout on constate et l'opposition est en train de pousser le pouvoir à l'erreur.
D'accord. Charles, qu'est-ce que vous pensez de la désignation de Edem Kodjo?
J'aimerais revenir à un aspect. Étienne Tshisekedi a demandé le dialogue après les chaos reconnus par la communauté internationale qu'internationale des élections de 2011.
Ouais.
Je me souviens que le porte-parole avait dit, je cite, « Le pays n'est pas en crise et qu'il n'est pas question d'organiser un quelconque dialogue. » Après quelques temps, ce sont des concertations qui s'amènent. Les concertations, qu'il faut avouer, ont formé un résultat que nous connaissons.
C'est sans recommandation.
Et donc, c'est accouché pratiquement d'une souris, s'il faut le dire. C'est une montagne qui a accouché d'une souris. Aujourd'hui, le médiateur est là. Merci qu'il soit venu. J'aimerais d'abord contredire le directeur général qui parle de
apportez vos arguments, ne le contredisez pas.
J'aimerais aller droit au but. Et quand on parle du blocage au niveau de la majorité ou de l'opposition, c'est pas un blocage, c'est plutôt toute la classe politique qui semble être bloquée à ce jour ici.
Okay.
Le conseil, moi, que je peux donner, par exemple,
Blocage, c'est Jean-Pierre qui l'a évoqué.
Oui. C'est pas un blocage d'une opposition, mais c'est parfois le blocage de la majorité.
Non, c'est l'opposition qui veut bloquer à tout prix.
Je te le concède. Le conseil que moi je peux donner à ces facilitateurs, c'est de bien maîtriser les problèmes pour lesquels il veut jouer ses rôles de médiateur. Parce qu'à l'Herculé, nous avons trois tendances dans les pays. Vous savez, il y a de ceux qui sont pro et qui sont pour le dialogue, il y a de ceux qui ne sont pas pour le dialogue. Et dans l'opposition, par rapport à ceux qui souhaitent le dialogue, il y a de ceux-là qui veulent, l'UDPS par exemple, qui veut aller bien au dialogue avec un agenda qui est tout à fait autre que celui de l'opposition.
Alors, sans vous couper, vous avez parlé de la médiation. Vous avez utilisé le mot médiation dans vos propos. Et justement, c'est la question qui se pose. Est-ce que Edem Kodjo est désigné en tant que médiateur ou consultant?
On a aujourd'hui des concepts qui nous posent problème. Et on a un problème de facilitation et médiation. Donc, ce sont là les concepts. À l'époque, on parlait même de co-médiation. Co-facilitateur.
Oui.
Donc, tout rôle qu'il peut jouer, ce qui porte plus, c'est de lui demander de bien maîtriser les problèmes, car il risquait de célébrer une messe de mort.
D'accord. Alors, Giscard.
Oui, moi, je pense que si le problème du dialogue ne se résume pas en termes de facilitation, médiation, une question de consultance? Non. Le problème, c'est d'abord la mission même, l'opportunité même du dialogue. Dialogue, pourquoi? Pour débattre de quoi? Parce que ceux qui ont convoqué ce dialogue ont donné un cahier des charges.
Notamment le processus électoral.
Les sorties dialogue démontrent que les matières inscrites à ces dialogues relèvent du fonctionnement normal des institutions qui sont encore là, qui existent.
Notamment
à moins de faire table rase, de reconnaître publiquement, les institutions censées faire telle ou telle chose ayant échoué, donc elles sont toutes anéanties, mais ce n'est pas fait. Donc il ne faut pas réduire la question du dialogue à tel ou tel autre émissaire, si tu étais même un émissaire venu des Nations Unies, mais ça n'aurait pas résolu le problème. Le problème, c'est l'opportunité même du dialogue et de la mission du dialogue, parce que le dialogue lui-même doit s'inscrire dans les schémas constitutionnels. Or, ceux qui sont aujourd'hui partisans du dialogue n'aiment même pas entendre parler du terme constitution. Dans tout acte pris, rien ne se conforme à la constitution. Donc c'est là le grand problème. C'est l'opportunité, c'est l'ordre du jour du dialogue, c'est la mission du dialogue, c'est la finalité du dialogue qui pose problème.
Mais Giscard, peut-être qu'il fallait aussi d'abord accepter de le recevoir pour lui présenter tous ces détails-là.
Mais d'abord, son statut est flou. On a dit ici, personne n'a répondu s'il est facilitateur ou médiateur. D'autres pensent même qu'il est simplement un émissaire. Donc, son statut n'est même pas connu. Et lorsqu'il arrive ici, l'homme est même désorienté. Avant même sa mission, il y a eu la réplique au communiqué de l'Union africaine. Donc, il savait déjà, lui-même l'a reconnu, qu'il est informé. Et en diplomatie, ça aussi a une signification, cet acte-là de ne pas le recevoir. Donc pour dire qu'il ne faut rien attendre, dans tous les cas, ce sont les pro-dialogues qui nous ont fait comprendre que la solution ne viendrait ni de l'Orient ni de l'Occident. Alors Eden Kodjo, lui, vient de l'Orient ou de l'Occident. Donc alors, il ne faut pas mettre le sort de tout ce pays simplement entre les mains d'un individu, soit-il facilitateur, médiateur, émissaire, consultant.
D'accord. Alors, est-ce que, finalement, d'après ce qu'on entend de Charles et Giscard Jean-Pierre, est-ce que Edem Kodjo n'était pas venu sur un terrain miné?
Terrain miné, oui, parce que vous avez un groupe de gens qui préfèrent prendre tout un peuple, 70 millions de Congolais en otage, de gens qui sont prêts à tout rejeter au nom de leurs intérêts égoïstes. Et pourtant, ils devraient privilégier l'intérêt national. Aujourd'hui, je vais vous démontrer qu'il y a nécessité d'aller au dialogue. Mais avant tout, je voudrais revenir même sur le statut de Kodjo. En fait, il ne revient pas, il ne revenait pas à l'Union africaine parce qu'il n'avait pas eu une demande formellement adressée à l'UEA de pouvoir désigner un facilitateur, un comédiateur ou que je sais. Mm-hmm. En fait, l'Union africaine, étant consciente de la situation, de la crispation du processus électoral, a bien voulu envoyer son émissaire pour s'enquérir à la base du problème. Monsieur Kodjo fera son rapport à la présidente de la commission qui en fera également part au sommet de chef d'État et qui verront quelles résolutions prendre. Pour l'instant, le dossier de la République démocratique du Congo est au niveau des Nations Unies. Les Nations Unies qui vont pouvoir désigner un facilitateur, un médiateur ou un co-médiateur. Question de satisfaire ceux-là qui pensent qu'entre Congolais, on ne peut pas dialoguer. Alors, mais maintenant, pour revenir à la nécessité, revenir à la nécessité du dialogue, il est des questions aujourd'hui purement politiques qui ne peuvent pas trouver réponse à la tripartite qui est au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Et puis, il ne faut pas oublier que la même CENI avait été récusée. La même CENI avait été accusée de tous les maux aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que l'opposition s'élève pour commencer à faire confiance à la Commission électorale. Mais ça m'étonne. Aujourd'hui, il est démontré que nous avons entre 6 à 8 millions de compatriotes, de nouveaux majeurs, qui doivent être enrôlés. Nous avons aujourd'hui cette affaire de la diaspora, ces compatriotes qui sont à l'étranger, qui ont désormais, d'après la loi électorale de juin 2015,
vous avez dit que l'opposition avait besoin de, avait demandé le recensement. Mais quand l'opposition avait demandé, pourquoi est-ce qu'à l'époque déjà on n'avait pas procédé à cette opération pour qu'on évite finalement ce
L'opposition est là pour faire des suppositions et non pour imposer. En fait, le gouvernement, tout gouvernement a son plan d'action. Tout gouvernement a ses priorités.
Et vous pensez que ça va se
passer? Quand l'opposition demande quelque chose, elle veut que ce soit fait ipso facto. Et pourtant, le gouvernement a d'autres priorités qu'il est censé faire. Alors, quand le gouvernement commence à prendre, répondre aux préoccupations de l'opposition, l'opposition piquée par quel mot? Non, on n'est plus concerné. Le recensement, qui l'a défendu? Le dialogue, qui a oublié l'épisode de la CVD? Jusqu'à Rousseff a connu l'histoire de la coalition pour le vrai dialogue au sortir des concertations nationales. C'est Vital Kamerhe, Fayulu et les autres qui ont demandé le dialogue. Aujourd'hui, le dialogue vient.
Le problème, c'est que le cerveau de ceux qui gouvernent fonctionne un peu au ralenti.
D'accord.
Parce que la politique, c'est aussi le pragmatisme. Oui, la CVD a été créée. Pourquoi? Pour vous dire que l'initiation du dialogue revenait bel et bien à l'opposition. Mais merci à ce moment-là, quelle était la réponse?
Mais le gouvernement n'a pas de temps d'étudier.
Très bien.
On ne va pas attendre à quelques mois du délai constitutionnel qu'on va...
Charles n'a pas eu beaucoup de temps de parole. Laissez-le quand même s'exprimer aussi. Allez-y, Charles.
Merci de la protection.
Vous n'êtes pas nager, mon frère.
Nous pouvons être réalistes. Il est vrai qu'il y a bien des problèmes qui nécessitent un dialogue en RDC. Aujourd'hui, qu'on ne se voile pas de face.
Et vous pensez que la présence d'Edem Kodjo, c'est une panacée pour ce dialogue?
Je vais aboutir. Envie d'aboutir à des élections peut-être paisibles ou sinon crédibles si vous le voulez. Mais n'oublions pas de nous poser la question pourquoi au cours d'une même législature on doit avoir autant d'assises qui demandent un budget au pays. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui du dialogue dans un autre contexte et penser organiser des élections dans un délai, dans les délais constitutionnels? Ce sont là les questions que les Congolais doivent se poser. Et c'est là que ceux qui ne veulent pas se voiler de face parlent carrément des glissements automatiques. Aujourd'hui, il n'est pas question de parler du dialogue et sans faire allusion à un glissement. Vu le temps qui nous reste, c'est une année électorale.
On a eu tout le temps pour organiser les assises. En 2013, lorsqu'on a organisé les concertations nationales, on connaissait bien tous ces problèmes. Le Parlement, à travers un député que j'ai suivi il n'y a pas très longtemps, a toujours débloqué une somme chaque année pour organiser les élections. Donc nous osons croire qu'il y a suffisamment d'argent pour cette fin. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai. Dire que on doit organiser les élections parce qu'il y a l'argent, c'est faux. Mais il faut penser aussi à cette question. Nous voulons parler des questions importantes. Dans quel délai? Est-ce qu'on sait, on a commencé à se mettre d'accord que nous allons parler des problèmes pour aboutir à un glissement? Ou sinon, on voit d'abord la question du glissement, on va au dialogue, parce que la nécessité du dialogue est là.
D'accord. Mais alors maintenant, une dernière question, parce qu'on doit clore ce débat. Est-ce que vous pensez que la présence d'Edem Kodjo pourra nous conduire vers un processus électoral apaisé?
Je ne pense pas. Mm-hmm. Je ne pense pas.
Pourquoi?
Dès lors que cette opposition, d'abord, les vrais protagonistes. Quand on parle du dialogue, on doit identifier les protagonistes. Qui sont les protagonistes aujourd'hui? Qui peuvent bloquer les choses? Qui peuvent créer les scandales? Dès lors qu'on n'a pas identifié ces gens, donc même le dialogue, même la mission de Kodjo risque d'être mise à mal.
D'accord.
On doit commencer par identifier les vrais protagonistes, identifier les vrais problèmes, la nécessité même de ce dialogue pour la vie de la nation.
D'accord, Jean-Pierre.
Sinon, ça risque d'être une mission.
Jean-Pierre, la même question. Est-ce que la présence d'Edem Kodjo peut nous conduire vers un processus électoral apaisé?
Oui, processus électoral apaisé, j'en suis sûr. Je veux que M. Kodjo a consulté les parties prenantes. C'est vrai, la dynamique n'a pas voulu rencontrer le Togolais, mais il y a quand même des partis politiques au sein de la dynamique, en l'occurrence le MLC, qui a bien voulu le rencontrer. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je ne sais pas. Je crois que quand il fera rapport à Mme Zuma, de bonnes résolutions pourraient tomber. Alors, tout ce que moi je veux, c'est que le pouvoir, que la majorité qui m'écoute à l'instant, ne cède pas aux provocations de l'opposition ou au blocage.
Là, vous devenez militant.
Oui, je ne suis pas militant.
Vous quittez le journalisme.
Je ne suis pas militant, je suis journaliste. Okay. Je demeure naître au centre, au milieu du village, mon frère.
D'accord. Alors, Giscard, est-ce que la présence d'Edem Kodjo peut nous conduire vers un processus électoral apaisé?
J'ai dit ici que le sort de la RDC ne peut pas être suspendu sur la présence de tel ou tel autre individu, soit-il de l'Union africaine. Le problème, c'est de faire la vraie lecture de la situation. Qu'est-ce qui bloque? Qui bloque? Or, il me semble ici que tous les éléments donnent à croire que c'est le gouvernement, c'est le pouvoir actuel qui a bloqué les processus électoraux. Et donc, il lui revient de débloquer cette situation. Vous le savez, le blocage du processus a été bloqué par le gouvernement. C'est lui qui doit disponibiliser des moyens. Ils n'ont rien fait. Ils ont donné 4 jours aux candidats pour les provinciales de donner des moyens. De l'argent existe. L'élection n'a jamais eu lieu. Il y a au niveau il y a trop de frictions, de frustrations lorsque les médias sont réduits au silence, les libertés,
notamment Canal
de mobilité,
d'expression.
Et comment voulez-vous donc? Il appartient le pays et gouverner. Et donc, les processus actuels, il évolue avec le simple objectif de faire croire aux gens que les consultations ou le dialogue, c'est l'unique voie qui peut tout remener à l'ordre. Je crois que c'est là où commence la mauvaise lecture. Il faut faire la bonne lecture de la situation et pour trouver des situations idoines. Sinon, tout le reste ne serait que des concertations bis, de solutions qui ne donneraient pas qui ne répondrait pas aux attentes de la population.
Et voilà qui nous amène dans la deuxième partie de notre émission de ce soir qui concerne la proposition de primaire à l'opposition. Et c'est l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, qui a proposé d'organiser les primaires au sein de l'opposition en prévision de la prochaine élection présidentielle qui doit tenir à la fin de l'année 2016. Objectif, selon lui, désigner un candidat unique de l'opposition pour cette présidentielle. Alain Hiroung nous en dit plus.
Invité du journal Afrique sur France 24 mercredi 13 janvier dernier, l'ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi a évoqué l'éventualité de l'organisation des primaires au sein de l'opposition congolaise en prévision de la prochaine élection présidentielle qui doit être organisée avant la fin de l'année. L'ancien cadre du parti présidentiel qui a récemment rejoint les rangs de l'opposition affirme que des pourparlers sont en cours pour désigner un candidat unique de l'opposition pour la présidentielle. Moïse Katumbi.
Je suis en train de voir toute l'opposition pour avoir un candidat unique. Nous sommes en pourparlers. Il y a une stratégie que nous sommes en train de mettre en place pour avoir un candidat unique, peut-être aller aux primaires pour choisir notre candidat unique.
Au sujet de cette présidentielle, l'ex-gouverneur de l'ancien Katanga appelle à une alternance. Au sujet du dialogue politique annoncé par le chef de l'État congolais pour discuter des prochaines élections en RDC, il estime que c'est une trahison, c'est une distraction aussi. Ce que je crois le plus important pour nous, dit-il, c'est de respecter le délai constitutionnel et sortir le plus vite possible un calendrier électoral pour éviter le chaos dans notre pays, souligne Moïse Katumbi.
Alors Giscard, est-ce que vous comprenez la proposition d'organiser les primaires, la proposition de Moïse Katumbi?
Merci. Avant de répondre, je voudrais d'abord signifier toute ma compassion à la suite de l'accident de circulation qui a failli coûter la vie à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, aujourd'hui, c'est un grand leader, c'est un acteur politique de premier rang. Pour revenir à votre phrase, l'idée elle est géniale, dans la mesure où elle s'inscrit dans la logique de la conquête du pouvoir. Donc on sent aujourd'hui que l'opposition a soif du pouvoir et veut gagner l'élection. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Mais nous pensons que pour l'instant, le combat de l'opposition devrait s'inscrire dans les objectifs du Front citoyen. Donc le combat actuel, c'est de pouvoir d'abord obtenir le respect des délais constitutionnels, organiser des élections. C'est le combat actuel. Les moments venus, évidemment, on passera, on trouvera le moyen le plus rationnel pour arriver à cette candidature unique. C'est d'ailleurs la finalité de tout le combat. Mais avant d'en arriver là, il y a une étape importante. C'est d'abord faire fléchir le gouvernement, arriver à obtenir les élections, des bonnes élections, dans de meilleures conditions, que cela soit respecté. Donc c'est les combats actuels, et c'est là, donc chaque combat devait s'inscrire dans les temps. Les moments venus, il y aurait des primaires, par consensus ou par primaire, c'est toujours des modes de désignation. L'objectif, c'est d'arriver au candidat unique, et même s'il doit y avoir primaire, là encore, il y a à plusieurs possibilités. Ce sont des primaires qui peuvent commencer au sein des partis politiques. Pourquoi pas? Donc, ça peut commencer au niveau des partis politiques. Donc, aller aujourd'hui engager des débats autour des individus, je crois que ce serait fragiliser une opposition qui est sur la bonne voie et qui fait bien les choses. Et donc, le moment venu, cette question-là, inévitablement sera évoqué et les moyens les plus efficaces, pourquoi pas, de primaires seront organisés.
Jean-Pierre, est-ce que vous pensez que la proposition de Moïse pourra permettre à l'opposition de gagner les élections en 2016?
Oui, si jamais l'opposition décidait enfin de parler même langage, d'éviter d'aller en désordre, parce que on sait dans notre pays que seule la majorité a toujours parlé même langage, contrairement à l'opposition et la société civile qui sont plurielles. La déclaration de Moïse Katumbi,
la majorité aussi plurielle.
Plurielle, mais très ordonnée, hein, très ordonnée, qui respecte beaucoup les ordres donnés par le bureau politique et consort. Par rapport à la déclaration de Moïse Katumbi, il me paraît à mon avis précipité, il est allé très vite en besogne, et donc ce sont les masques qui commencent à tomber. Moïse, qui est intervenu dans l'opposition, si vous voulez bien, nouveau venu dans l'opposition, commencer à faire pression pour avoir un candidat commun. Je suis sûr que c'est bien, il parle de lui parce qu'il sait qu'il va.
Ah, vous entrez déjà dans ça.
Je suis sûr, enfin je sais, parce que il est en train de séduire aujourd'hui. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est une sorte de pré-campagne. Il se voit déjà président virtuel. Il sait que avec son argent, ses moyens, il peut tout faire, il peut corrompre ses pères et consorts. Mais là, je crois que cette déclaration
risque
de diviser encore.
Vous pensez qu'il peut corrompre
facilement Vital Kamerhe
ou bien F. Bazaïba?
D'ailleurs, je sais que l'opposition, cette unité ou cette union, elle n'est que virtuelle, parce que je sais qu'à l'intérieur, ils ne partagent pas les mêmes fonds de vue.
D'accord.
J'en ai pour preuve Bazaïba qui a rencontré Kodjo, alors que le mot d'ordre donné au niveau de la dynamique était de ne pas rencontrer le Togolais.
Voilà.
Donc, cette déclaration, je finis par
rapidement,
là,
oui,
va disperser ou va créer la division au sein de la dynamique, parce que Kamerhe ne voudra pas en entendre parler. Tu sais qu'elle dit que le sphinx de l'imité, tu sais qu'elle dit qu'il s'est toujours autoproclamé leader, enfin, incontournable de l'opposition, ne voudra pas aller aux primaires. Donc vous comprenez que c'est une déclaration qui vient jeter des l'huile sur le feu, et Moïse Katumbi risque de se retrouver seul.
D'accord, pas de problème. Alors Charles, je reviens à vous, Giscard. Charles, il y a certains certains opposants qui disent qu'il fallait que Moïse réussisse à définir d'abord l'électorat, tenir compte des poids de certains partis politiques. Est-ce que cela n'est pas une difficulté, comme l'a évoqué Jean-Pierre ici, c'est pas une difficulté par rapport à la proposition de Moïse?
Une difficulté, oui ou non, bon, tout peut être dit, mais c'est que moi je peux comprendre de la décision de Moïse Katumbi.
La proposition.
De la proposition de Moïse Katumbi. Il n'est pas allé vite en besogne, mais la politique se prépare du jour le jour. Alors, il a voulu prévenir ce qui peut venir au cas où on organise les élections. Mais, là où je doute, vous connaissez ce qu'a connu Kamere en 2011, quand les vieux Tshisekedi il provenait de l'hôpital. Mm-hmm. Il dit, mais moi j'ai fait 30 ans à l'opposition, et je ne veux pas des top. Les mots top, c'est Tshisekedi qui est venu avec. Il voulait tout simplement, Kamere, ce qu'il a connu en 2011, ce n'est pas le problème de sa famille politique, il était diabolisé et par la majorité présidentielle qui connaissait que pour certains il était encore leur membre, quand même il était déjà opposant, et pour l'opposition, et pour Tshisekedi, on disait Kamere c'est quelqu'un qui vient distraire l'opposition qui travaille
pour
Kabila.
Donc pour vous même les parler que propose Kakanos Moïse ne vont pas arranger les choses.
Là où ça risque d'être parfois compliqué, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il est difficile, dès lors qu'il y a de ceux qui continuent à réclamer l'ancienneté de l'opposition. Donc il est difficile aujourd'hui à ce que le propos de Moïse Katumbi puisse tenir debout, parce que l'IDPS, j'insiste, l'IDPS au jour d'aujourd'hui, si aujourd'hui Kamere Katumbi se mettait autour d'une table pour désigner une candidature unique et qu'on tombait sur Katumbi ou sur Kamere, Tshisekedi ne sera jamais prêt à céder, même en faveur de son propre fils.
D'accord.
J'ai vu qu'il ne sera jamais prêt à céder,
voilà,
dès lors qu'il lui met encore en vie.
Donc, très bien. On arrive déjà pratiquement à la fin de notre émission et on va conclure.
Il est le seul incarnateur.
On va conclure.
Moi, rapidement. Je ne voudrais pas tomber dans la guerre des individus
et
des leaderships.
Dans la proposition de Katumbi.
Mais justement, je suis dans cette proposition.
Voilà.
Je ne voudrais pas tomber dans les pièges de pouvoir opposer des individus ici.
Mm-hmm. Oui.
Donc, je crois que je ne voudrais pas non plus citer de noms, mais je sais que Moïse Katumbi et Vital Kamerhe sont membres du Front Citoyen et mm-hmm. ont convenu de travailler ensemble pour des objectifs nobles et n'a déplaise au pouvoir qui multiplient des conflits. On a vu des rapports ici pour lesquels le pouvoir recommande d'infiltrer l'opposition et pour chercher à les diviser. Non, je pense que pour l'instant, l'opposition a donné tous les signes extérieurs pour voir qu'ils sont soudés. Ils sont dans des objectifs communs. Les Francs communs à un objectif précis. Donc chaque combat doit être inscrit dans les temps et pour l'instant, les combats les plus importants pour les opposants et les leaders de l'opposition, c'est de pouvoir faire respecter le délai constitutionnel et c'est ce qui est en train d'être fait.
D'accord.
Donc le reste, c'est rien. Vous le savez, Vital Kamerhe, il n'y a pas longtemps, a fait une proposition pour dire que pour lui, ce qui importe, c'est de faire les dialogues à Beni. Donc n'oublions pas les Congolais. Donc la guerre des individus, ça c'est rien. Voyons d'abord les peuples
voir...
congolais. Qu'est-ce que le peuple congolais recherche? Quels sont ses vrais problèmes pour l'instant? Parlons du dialogue pour les tueries à Beni, les massacres à l'Est, plutôt que de passer les tendons.
D'accord.
Je crois que c'est une distraction, chercher à diviser des personnes qui sont soudées et qui travaillent pour le même objectif. Et c'est
Merci.
Que l'on recherche, c'est d'abord de provoquer, d'obtenir l'alternance, qu'il y ait des élections. La question sera débattue.
Merci.
Le moment venu.
D'accord. Alors, Jean-Pierre, rapidement, on est arrivé pratiquement à la fin de notre émission. En conclusion.
La dynamique, le Front Citoyen, le G7, ils ont en commun l'alternance. Le départ de Kabila, c'est du haut toit de là que je vais me mettre.
Mmh.
Mais je sais qu'entre eux, ils ont des problèmes, ils ont des contentieux. Je suis en train de voir cette dynamique, cette opposition éclater un jour. Ce n'est pas ce que je sais parce que je connais la guerre
des égos. On arrive pratiquement à la fin de notre émission.
Je connais la guerre des égos, la guerre des égos qui mine. Je connais la guerre des égos qui mine l'opposition. Je sais que Fayoulou a une fois refusé de reconnaître Kamerhe un jour.
Merci.
Je demande à moi. Moïse Katoum de créer un parti politique parce qu'il ne peut pas aller aux primaires sans parti politique.
Merci Moïse. Doit aller en primaire. Rapidement, en un mot, Charles, un mot seulement.
Moi, je disais que si on veut organiser les dialogues, on doit tenir compte que la machine était déjà marche. On avait déjà organisé les élections provinciales et que les candidatures ont été déjà déposées. Et par rapport, on doit tenir compte de tout cela, que ces gens-là ont déjà versé leur caution. Et puis, si on doit parler de la candidature unique ou commune
rapidement
proposée par Moïse Katoumbi, je pense qu'à l'heure qu'il est, il est difficile tant que la politique congolaise a toujours navigué par sa vie. Donc,
merci beaucoup et c'est la fin de cette tribune de presse. Rendez-vous sur www.radiocapi.net pour la réécouter.